Une nouvelle qu'il faut absolument souligner aujourd'hui. Julien Brisebois, un gradué de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et actuel directeur général du Lightning de Tampa Bay, qui annonce son implication avec l'université. Il se joint au club des gouverneurs et du même souffle, il va d'un don personnel de 75 000 $ à l'équipe féminine de hockey du programme des Carabins, dirigée par Daniel Sauvageau. On a le plaisir d'avoir Julien avec nous au bout du fil. Bonsoir, Julien.
Bonsoir, Mario.
Félicitations. D'où est venue cette idée-là? Je sais que tu honores par là ou par où t'es passé, mais comment est venue cette association-là avec l'Université de Montréal?
Ben à la base, ça débute par le fait que je crois à la poursuite du bonheur. C'est un trait universel chez l'humain, puis tout le monde veut être heureux, je suis pas différent. Puis une façon facile de se créer du bonheur, c'est d'aider les gens et de donner au suivant. Tout le monde peut faire ça à l'intérieur de ses moyens. Donner, ça contribue à notre bonheur parce que ça nourrit l'âme. Alors, en partant de ce principe-là, à l'automne 2019, Manon Simard, qui est la directrice du programme des Carabins, m'a contacté. On s'est rencontrés à Montréal en janvier 2020. Beaucoup de choses se sont passées depuis ce moment-là. Hey. Mais elle m'a parlé de son programme et puis de sa campagne de financement. Et elle m'a demandé de contribuer, ce qui était tout à fait normal pour moi de contribuer à mon alma mater et de redonner à l'Université de Montréal. Premièrement, parce que c'est une très grande institution dont je suis très fier et je pense que j'ai une responsabilité en tant que diplômé de faire rayonner cette institution-là. L'Université de Montréal, c'est une des plus grandes universités au monde, une des meilleures universités au monde. Elle est souvent classée première université francophone au monde et c'est chez nous, ça. C'est à Montréal que cette institution-là est établi. Alors, c'est facile pour moi de vouloir m'associer à l'Université de Montréal et à redonner. Tant qu'à contribuer au programme de sport, je trouvais que c'était normal que je m'associe à l'équipe de hockey. Je gagne ma vie dans le hockey, je suis associé à ce sport-là. Et aussi, quand on regarde la pyramide mondiale du hockey féminin, il y a les équipes nationales, probablement au sommet, et les ligues professionnelles, mais le pipeline qui vient approvisionner ces équipes-là, c'est souvent le hockey universitaire, dont la Ligue U-Sport au Canada, dont font partie les Carabins. Alors, ce sont vraiment de grandes joueuses. Si tu veux pouvoir jouer pour une équipe comme les Carabins de Montréal, il faut que tu sois une très, très bonne joueuse de hockey. Alors, dans le fond, c'est un honneur pour moi de pouvoir être associé à ces athlètes-là. Et c'est un peu comme ça que le tout s'est fait. On espérait faire une annonce au printemps dernier, mais la pandémie est venue changer nos plans et puis j'ai attendu que l'université soit prête à en faire l'annonce en espérant inspirer d'autres gens à redonner parce que on n'a pas nécessairement ça. C'est moins présent dans notre culture francophone en Amérique du Nord de redonner à nos universités, de redonner à nos alma mater. Les anglophones le font depuis plus longtemps. Mais on a de grandes institutions au Québec, de grandes universités francophones. Et si on veut maintenir la qualité de ces institutions-là, la qualité de l'enseignement, la qualité de la réputation de ces universités-là, dont l'Université de Montréal, ben on se doit de la faire rayonner en tant que diplômé et de redonner. Alors, j'espère que la publicité qui va avoir été générée aujourd'hui va inspirer d'autres personnes à redonner à l'Université de Montréal.
Ben bravo pour ce don, Julien, ton don et encore plus, tes mots sont très, très inspirants et effectivement qu'on a une toute jeune tradition encore de dons à nos institutions. Faut dire que les fortunes francophones ont peut-être moins d'ancienneté que beaucoup de fortunes anglophones, mais ouais, c'est tout un geste. Et pour insister un petit peu plus sur le programme de hockey féminin des Carabins, ça fait quand même plusieurs années que Daniel Sauvageau me dit que c'est sûr qu'on est toujours souvent, là, je dirais pas aveuglé, mais les bourses des institutions américaines sont très alléchantes pour nos meilleures hockeyeuses. Mais quand tu calcules la valeur de l'éducation que tu reçois ici à l'Université de Montréal, et la valeur du programme de hockey, Daniel répète, là, et il tient, et il veut qu'on insiste pour dire que nos programmes ici, c'est aussi valable, et que, je veux dire, finalement, on a plein de raisons de rester ici plutôt que de s'expatrier, sans dénigrer ceux qui vont choisir de s'expatrier, mais tu comprends ce que je veux dire, Julien? La qualité du programme hockey ici à Montréal, pour les femmes, c'est exceptionnel.
Effectivement. Et moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai obtenu mon bac en droit de l'Université de Montréal. J'ai fait mon MBA à Concordia. J'ai aussi étudié aux États-Unis, à Cleveland. Alors, jamais je dénigrerais cette avenue-là pour quelqu'un qui veut étudier aux États-Unis puis voir quelque chose de différent. Mais je pense qu'il est important, c'est qu'on a les athlètes, les, dans ce cas-ci les hockeyeurs, mais c'est vrai pour tous les athlètes, qui veulent rester au Québec, qui veulent étudier en français à l'université, qui a cette opportunité-là. Et à l'Université de Montréal, lorsqu'un athlète décide de joindre à l'Université de Montréal et poursuivre ses études-là, c'est une éducation de premier plan là, à l'échelle mondiale que cet athlète-là va recevoir. Et le programme des Carabins, il est hyper compétitif sur la scène nationale. Les gens sont familiers avec l'équipe de football, mais les autres sports, les autres disciplines connaissent énormément de succès aussi, dont le hockey, qui en, je pense, 12 ans là, d'existence, ils ont quand même déjà remporté 2 championnats nationaux. Et année après année, le programme se classe pour les finales et la ronde des médailles. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des opportunités pas nécessairement meilleures ou moins bonnes, mais des opportunités qui peut-être font plus l'affaire à certains étudiants qu'à d'autres. Et que cette opportunité-là d'étudier en français et de pratiquer son sport à un niveau élite puisse se faire ici à Montréal.
Peut-être pour compléter sur le hockey féminin, puis j'ai eu un petit flashback pour un de tes prédécesseurs dans la même chaise que tu occupes à la barre du Lightning de Tampa Bay, en me rappelant que Manon Réaume avait enfilé le chandail du la seule femme dans l'histoire du hockey à avoir joué dans des conditions de match, Phil Esposito qui l'avait invité. Et quand tu regardes en avant, vois-tu dans le développement du hockey féminin professionnel une association encore plus marquée? Je sais que ça, c'est plus du ressort du bureau du commissaire de M. Bettman, mais vois-tu un arrimage encore plus soutenu entre la Ligue nationale de hockey et le développement du hockey féminin à l'avenir?
Ben, je crois que le hockey féminin est en plein essor. C'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai ici en Floride aussi. Alors, je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour le hockey féminin au niveau professionnel. Oui, je crois personnellement que la Ligue nationale a un rôle à jouer. Comme tu l'as mentionné, c'est pas exactement de mon ressort et je suis pas exactement certain c'est quoi le rôle, mais il y a certainement un rôle qui doit être joué. C'est très rare dans notre société que quand tu es un des meilleurs au monde dans ta discipline, que tu n'es pas capable de gagner ta vie en pratiquant cette discipline-là. Et les joueuses de hockey qui sont de calibre à jouer au niveau professionnel en Amérique du Nord, ce sont les meilleurs au monde. Alors, elles devraient, en principe, être capables de gagner leur vie à pratiquer le sport dans lequel elles excellent.
C'est tellement logique. Julien, on a le privilège de s'entretenir avec toi. Tu me permets de te poser quelques questions sur ton équipe. De loin, je regarde ça aller, la saison du Lightning de Tampa Bay. On parle du marché des échanges le 12 avril qui s'en vient. Tu dois être assez quand même confiant puis pas trop nerveux, en ce sens que j'ai l'impression que les gestes que tu avais à faire, tu les as posés l'an passé, puis pour plus qu'une année, parce que tu as à peu près le même club. La grosse différence, c'est l'an passé, vous avez gagné 100 Stamkos, et cette année, ben, vous êtes en train de prouver que vous pouvez gagner 100 coups de Cherov. Ça ressemble à ça. Est-ce que ta liste d'épicerie est plutôt courte pour la date des transactions?
Bien, je dirais que le premier obstacle à conclure une transaction, c'est l'absence d'espace sur le plafond salarial. On a pris des décisions dans l'entre-saison qui ont fait en sorte qu'on a utilisé tout l'espace sur le plafond salarial qui nous était alloué pour la saison. Même que jeudi dernier, lorsqu'on a joué contre Dallas, on a dû jouer à cause d'un homme parce qu'on n'avait pas assez d'espace sur le plafond salarial pour habiller 18 patineurs. Alors, on est vraiment à côté contre le plafond et c'est probablement ça qui va être le plus gros obstacle à ce qu'on puisse conclure une transaction là, d'ici au 12 avril.
Il reste que ton équipe a gagné l'an passé, donc c'est pas une équipe qui avait besoin de beaucoup de changements. Julien, t'as vu quand même plus loin que juste les séries l'an passé quand t'as apporté des modifications à ton alignement l'an passé?
Oui, c'est certain que lorsqu'on évaluait le prix à payer pour faire l'acquisition de Blake Coleman et de Barclay Goodrow à la date limite des transactions il y a un an, on tenait compte du fait qu'on allait pouvoir, ou du moins qu'on espérait pouvoir compétitionner pour la Coupe Stanley pendant 2 saisons avec ces joueurs-là qui viendraient nous procurer de la profondeur pendant deux courses à la Coupe Stanley. Alors, heureusement pour nous, l'année dernière, non seulement ils ont été de bons joueurs pour nous et de belles additions, mais on a réussi à remporter la Coupe Stanley avec eux. Et puis là, cette année, on en pourchasse une deuxième. Évidemment, il y a beaucoup d'équipes qui cherchent à remporter la Coupe cette année et qui peuvent, de façon légitime, aspirer à la Coupe Stanley. Mais je crois qu'on est une de celles-là. Alors, ça va être intéressant à suivre là, d'ici le reste de la saison.
La réglementation en place fait que Kucherov peut revenir en série sans que tu te soucies du plafond salarial, Julien, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, on s'attend à ce que Nikita soit rétabli de son opération à la hanche pour les séries éliminatoires. On n'a pas une date spécifique en tête, mais en espérant qu'on continue là, sur notre lancée durant la saison régulière et qu'on puisse se sécuriser une place en saison éliminatoire, on est bien parti. Nikita devrait être en mesure de nous rejoindre là, en cours de route.
Ça fait toute une acquisition sur la date limite des transactions quand tu l'as déjà dans ta cour. Qu'est-ce que ça fait aux joueurs, à toi puis à tout le monde à Tampa Bay là, de pouvoir accueillir un peu de monde dans l'amphithéâtre, là, pas loin de 20 % de capacité, là, autour de 3 800? Est-ce qu'ils se font entendre?
Oui, j'ai été très agréablement surpris de voir l'ampleur du bruit qu'ils sont capables de générer à 20 % de la capacité de l'amphithéâtre. Nos partisans sont très passionnés. Je le répète souvent, la beauté du hockey de la Ligue nationale, c'est l'intensité de la compétition ou de l'esprit de compétition des joueurs et la passion des partisans. Alors, c'est certain qu'il nous manquait un petit peu un ingrédient au match durant la période où on a dû jouer sans partisans dans l'amphithéâtre. Mais là qu'ils sont de retour, on est très heureux qu'ils soient là et on a hâte qu'ils soient encore plus nombreux.
C'est quoi la grosse différence que tu observes depuis le début de ce calendrier en pleine pandémie de jouer contre les mêmes équipes beaucoup plus régulièrement là, dans la division centrale? Au-delà de spectateurs, pas de spectateurs, dans le jeu, vois-tu une différence affronter toujours le même monde, Julien?
Je suis pas certain. Je suis pas certain de comment ça affecte le jeu sur la glace. L'échantillonnage est quand même petit et il y aurait possibilité de faire des erreurs, là, à tirer des conclusions basées sur la trentaine de parties qu'on a jouées à date. Je dirais la chose qui est vraiment plus présente là, au quotidien cette saison, c'est un, tout le protocole du COVID pour garder les gens en sécurité et garder la COVID à l'extérieur de notre vestiaire. Ça, c'est un engagement quotidien et des actions à prendre au quotidien et c'est omniprésent. Et l'autre chose, c'est la fréquence à laquelle on joue des parties. On a commencé la saison avec pour objectif de jouer 56 parties en 116 matchs, ce qui était déjà beaucoup. Compte tenu de les quelques fois où il y a eu des pauses à cause de cas de COVID à travers la Ligue, où nous, dans notre cas, il y a eu la tempête de neige à Dallas là, qui nous a forcé à remettre certaines parties. On se retrouve à jouer encore plus de parties en peu de temps. On vient de finir là, une séquence de 8 parties en 13 soirs. On n'est pas habitué à ça, personne. C'est beaucoup de hockey. D'ailleurs, on est revenu samedi soir de cette séquence-là de 8 en 13. Et puis, on a donné 2 journées de congé aux joueurs parce qu'on sentait que c'était nécessaire là, si on voulait recharger nos batteries. Alors, les deux défis, là, c'est de respecter le protocole en tout temps. C'est quand même assez demandant. Et deux, la fréquence à laquelle on doit jouer des parties. Il n'y a pas beaucoup de temps pour récupérer. Il n'y a pas beaucoup de temps non plus pour les entraînements.
Pour nous, ah non, c'est du stock, pas à peu près. Là, le Canadien, d'ailleurs, qui va vivre tout un calendrier là, avec le remaniement du calendrier de la Division Nord. Un aspect intriguant, je ne sais pas pour toi, Julien, mais pour nous, les observateurs et amateurs, c'est de voir comment, en première ronde des séries, c'est parce que tu ne joues pas contre le trois quarts de la Ligue. As-tu l'impression qu'il y a une division qui est plus forte qu'une autre en ce moment ou c'est incalculable?
C'est très difficile à dire. C'est très difficile à savoir même, nous, notre équipe, comment elle se mesure aux équipes des autres divisions.
Parce exact.
Non seulement on ne joue pas contre les équipes de la division Nord ou de la division canadienne, mais les équipes contre lesquelles on joue ne jouent pas, elles non plus, contre ces équipes-là. Fait qu'on n'a même pas... On n'a même pas d'indice à savoir comment on se mesurait une équipe versus l'autre. Alors, ça va être intéressant. Évidemment, nous, on doit se concentrer sur les équipes qui sont dans notre division et essayer de sortir de notre division. J'espère qu'on va avoir le privilège de jouer contre une équipe d'une autre division à un certain moment donné. Ça voudrait dire de bonnes choses pour notre organisation.
Deux petites vites en terminant sur tes joueurs, Julien. Tu les vois de près, tu es leur patron et un observateur de premier plan là pour qualifier leur jeu, pour commenter leur jeu. Puis à toutes les fois qu'on parle des meilleurs dans la Ligue nationale, moi, j'aimerais ça entendre son nom, mais tu sais, on est toujours omnibulé par l'offensive. Fait, puis c'est des méchants bons joueurs aussi, là, des McDavid, des Austin Matthews, des McKinnon. Puis j'en oublie, il y a tellement de bons joueurs dans la Ligue nationale. Mais Victor Hedman, là, je veux dire, quel joueur d'hockey, Julien? Je ne sais pas si tu peux me parler de comment tu l'apprécies et où tu le vois dans la hiérarchie des meilleurs de la Ligue nationale. Moi, j'en reviens pas comment il contrôle un match, gars, là.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Mario. C'est certain que je suis biaisé, mais j'ai la chance de le voir au quotidien. J'ai la chance de le voir dans tous les matchs. J'ai la chance de le voir jouer contre Patrick Kane, Barkov. Il est possiblement le meilleur joueur de la Ligue nationale. Son impact sur la partie, lorsqu'on a la rondelle, lorsqu'on est en attaque, lorsqu'on défend, C'est très difficile à calculer son impact, mais je suis pas certain qu'il y ait un joueur dans la Ligue nationale qui en a plus que lui. Ceci étant dit, on a une équipe où on est privilégié, on a plusieurs bons joueurs. André Vasilevskiy aussi est un des joueurs dominants dans la Ligue nationale et on n'a pas la tendance à mentionner les gardiens de but ni les défenseurs lorsqu'on parle des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale, mais évidemment, Victor Hedman et André Vasilevskiy sont deux des meilleurs à leur position et probablement deux des meilleurs dans la Ligue.
Ben, je suis content de t'entendre parler ainsi de Victor Hedman. Et ma deuxième question, c'était sur Vasilevskiy. Je me l'étais gardé pour le dessert. Fait que tu m'as un peu devancé, mais il est au sommet de son art. Et c'est de toute beauté. Moi qui ai toujours été un amateur de gardien de but aussi loin que je puisse me souvenir dans mes souvenirs, là, de l'entrée en scène de Dryden dans la Ligue nationale. Vasilevskiy à son meilleur, c'est parmi, en tout cas, dans cette phase-là de sa carrière, ça se compare au meilleur de l'histoire, j'ai l'impression. De ton point de vue, peut-être en terminant.
Oui, je pense que quand, en ce moment, il est certainement, dans mon opinion à moi, il est le meilleur. Et il est certainement en voie d'être nominé pour le Vezina pour une quatrième saison de suite et possiblement le remporter pour une deuxième fois. Quand vient le temps de le mesurer au meilleur de l'histoire, il est encore tôt, mais si la tendance se maintient, il reste beaucoup d'ouvrage à faire, et il va y avoir des statistiques fort impressionnantes lorsque sa carrière va être terminée.
En effet. Julien, merci beaucoup du temps que tu nous accordes aujourd'hui, du temps que tu accordes à tous les médias pour faire en sorte que la lumière jaillisse sur le programme d'hockey féminin de l'Université de Montréal. Bravo pour ton implication, puis bonne fin de saison avec ton équipe.
Merci à toi, Mario.
Au plaisir. Au revoir.